7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Clémence de la vie.
Bonjour à tous et bienvenue les voisins chez 7 milliards. Aujourd'hui, nous allons donc parler des embouteillages. Vous vous dites déjà, j'en suis sûre, les embouteillages, non mais quelle galère. Ces heures coincées dans les bouchons, ces heures à essayer de trouver la route qui va vous sortir de tout ce bazar. Bref, la galère, nous sommes tous d'accord, mais que fait-on alors? Faut-il repenser la ville? La place de la voiture dans la ville, y en a-t-il trop? Aujourd'hui, comment faites-vous pour rentabiliser le temps passé dans les embouteillages pour que ce temps-là ne soit pas perdu? C'est une vraie question. Nous allons en parler avec nos invités, Liliane Pierre-Louis, architecte urbaniste. Vous partagez votre vie entre Ouagadougou et Paris et vous avez, Liliane Pierre-Louis, vu l'évolution des déplacements à Ouaga ces 30 dernières années. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous raconter tout cela avec nous également, Frédéric Errand. Vous êtes professeur, chercheur en économie des transports à l'université Lille-1 dans le nord de la France et vous avez publié, c'était il y a un an de cela, un livre retraçant l'histoire des déplacements urbains intitulé « Le retour de la bicyclette ». Bonjour.
Bonjour.
Et vous les voisins, les voisines, alors qu'en dites-vous? Faut-il penser à la ville autrement? Que peut-on faire pour désengorger les villes? Comment faites-vous pour que ce temps passé ne soit pas perdu? Devez-vous vous organiser autrement pour les éviter, ces embouteillages? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et puis aussi notre page Facebook, n'oubliez pas.
Pourquoi ça embouteille, là?
Bon, jusqu'à là, je comprends absolument rien.
Il est 20h pourtant du soir, c'est encore les sorties du travail?
Apparemment, il y a les retardataires aussi, qui sortent vers 20h. Aujourd'hui, franchement, c'est un peu beaucoup, quoi. Non, nous sommes en train de faire des tours, mais bon, on s'en sort même pas. Vraiment, il y a de l'embouteillage, je comprends pas pourquoi. Et je m'inquiète, j'appelle qui pour qu'il m'explique un peu cet embouteillage, ça vient d'où, là? Je comprends plus rien. Plein de policiers qui arrangent la circulation, mais bon, il n'y a rien du tout qui bouge.
Ouais, vous connaissez sans doute cela, les voisins, les voisines. Alors, comment fait-on pour ne pas devenir fou à l'image de notre correspondante à Kinshasa, Sonia Rollet, qui était coincée dans son taxi? Salami Moubrabaki Olawali nous dit sur Facebook qu'il écoute, lui, de la musique ou de la radio. Alors là, je valide complètement. Mamadou Traoré nous conseille, lui, de lâcher la voiture et de marcher. C'est peut-être une solution. Dites-nous ce que vous en pensez, les voisins. Frédéric Arlin, parce que on aimerait bien comprendre un petit peu, les embouteillages ne sont pas si anciens que cela. Pourtant, pourquoi il y a des embouteillages aujourd'hui?
D'abord, pour une raison principale, c'est que la voiture prend énormément de place par personne transportée. Hein, quand on regarde, quand on compare les différents modes de déplacement, c'est la voiture est de très très loin qui prend le plus de place, non seulement en circulation, mais aussi et surtout, et plus encore, en stationnement.
Ça prend trop de place, concrètement, physiquement?
Oui, il y a qu'à regarder autour de vous. Enfin, les villes sont envahies par les voitures qui non seulement prennent de la place en circulation. Il y a parfois des cyclistes qui s'amusent à faire des manifs en mettant autour d'eux un cadre en bois de la taille d'une voiture, et on voit soudain tout l'espace que prend une voiture, quoi.
Yes. Et du coup, on va prendre en ligne tout de suite avec nous Hervé, qui nous appelle de Douala. Bonjour Hervé.
Bonjour Clément.
Vous allez bien?
Je vais bien, merci.
Bon, vous n'êtes pas dans un embouteillage là aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu quelle est votre difficulté tous les jours, les difficultés que vous rencontrez pour vous rendre au travail notamment.
Alors à Douala, on a un carrefour qui se nomme Bécotier.
Oui.
Et qui est toujours embouteillé. Et donc j'habite près de la cité des Palmiers, qui est à environ 3 km de ce carrefour. Et le matin, je suis obligée de partir de la maison à 6h si je veux traverser le Cameroun, le carrefour, pardon, et arriver à l'heure.
D'accord.
Et le soir, quand je rentre, quand j'arrive à ce carrefour, si c'est embouteillé, je préfère marcher. Et en général, j'arrive avant les taxis.
Avant les taxis, d'accord. Et du coup, vous avez dû organiser toute votre journée pour pouvoir éviter ces embouteillages, vous lever plus tôt et miser éventuellement sur un retour un petit peu plus tôt chez vous aussi?
Oui, justement. je suis obligée de me réveiller tout tôt le matin. Et le soir, bon, je rentre un peu plus tard parce que je marche.
D'accord. Frédéric Errand, vous avez dit la voiture prend trop de place, mais on a aussi l'impression qu'il y a trop de voitures. Enfin, c'est une combinaison des deux, en définitive.
Oui, la voiture a quelques avantages. Je pense que ça n'a échappé à personne. On est à l'abri, on est en sécurité, on a envie évidemment de l'utiliser. Donc il y a une grande aspiration à l'usage de la voiture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout le monde veut utiliser une voiture, alors il faut raser la ville pour lui faire la place. Hein, on a calculé comme ça que si tous les Franciliens à Paris, hein. Si tous les Franciliens voulaient se rendre à Paris en voiture, il y a une solution pour faire la place à ces voitures, c'est de raser Paris.
Ah, une solution un petit peu radicale. Liliane Pierre-Louis, vous qui habitez Ouagadougou, comment vous avez vu la voiture arriver à Ouagadougou? Parce que c'est pas si ancien à nouveau.
La voiture est à Ouagadougou depuis assez longtemps, mais c'est la quantité qui a changé. Avant de répondre directement sur Ouagadougou, si notre voisin qui vient d'intervenir est toujours en ligne, moi je voudrais lui demander si il a envie, de temps en temps, dans ce fameux carrefour, de s'arrêter et de regarder ce qui se passe. D'essayer de comprendre pourquoi, dans ce carrefour, on perd tant de temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment se comportent les gens aux abords de ce carrefour? Est-ce que lui-même se pose la question ou se dit seulement « la barbe, il faut que je traverse ». Et je sais que ça va être terriblement difficile. J'aimerais bien savoir si
est-ce qu'Hervé est encore en ligne avec nous. Oui, Hervé, alors, est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous réfléchissez ou vous dites qu'est-ce qui se passe?
Je pense que c'est parce qu'il y a trop de véhicules.
Il y a trop de voitures.
Votre diagnostic est qu'il y a trop de véhicules. Est-ce que vous pensez que si les conducteurs de ces véhicules étaient plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux, hors du véhicule, et pensaient un peu moins à la trajectoire qu'ils veulent absolument suivre, est-ce que vous pensez pas que ça pourrait peut-être donner un peu de fluidité à la trajectoire de tout le monde, qui pourrait se dire qu'ils sont dans un flot qui bouge, qu'ils sont pas tout seuls à bouger, à aller d'un point à un autre, mais qu'ils sont entrés dans une espèce de flot qui comme quand on ouvre un robinet. Est-ce que vous avez déjà discuté de choses comme ça, de ce type de sujet, de partager avec des amis la sensation qu'ils ont quand ils sont dans des grands ralentissements, ou est-ce que c'est tout de suite l'énervement?
Je sais pas trop, mais je pense que les conducteurs, en fait, parce qu'ils sont trop pressés, ne font pas attention aux autres. Donc, on veut seulement partir.
Ils ne font pas attention aux autres.
On ne fait pas attention aux autres. On est dans sa voiture et on oublie les autres. On ne fait pas attention aux autres. Parce qu'il faut dire, Liliane Pierre-Louis, que c'est un peu ce pourquoi vous militez, réfléchir à son comportement et peut-être surtout à son itinéraire initialement. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Bon,
et je vais en même temps vous donner quelques nouvelles de Ouagadougou. À Ouagadougou, sur une des radios locales, il y a une émission tous les matins de bonne heure vers 7h où les auditeurs appellent, comme chez les voisins. Ça s'appelle « Ça va, ça va pas ». Et on dit soit ce qui va, soit ce qui ne va pas. Et les questions, justement, de difficultés de circulation sont souvent posées. Et elles sont presque toujours posées sous l'angle de l'indiscipline. Ils ne respectent pas les feux, ils ne respectent pas les consignes de la police, ni d'une forme d'agent particulier qu'on a à Ouagadougou qui s'appelle les volontaires adjoints de sécurité, les VADS, fort bien reconnaissables. On est beaucoup de personnes en circulation sont très indisciplinées à l'égard de ce qu'on essaye de mettre en place pour améliorer l'usage des lieux. Alors c'est vrai que moi j'ai connu Ouagadougou en 1990, à un moment où on était suffisamment peu nombreux en voiture pour se dire je pars de tel point chez moi, je vais à tel endroit, tel bureau, tel service pour telle réunion, géométriquement, quel est le plus court, quelles sont les rues qui existent, j'y vais. C'est tout. C'était très simple et comme le cœur de ville était petit, c'était rapide.
Mais vous le disiez avec Frédéric Héran avant que l'émission ne commence, la ville a grandi de façon, et les transports dans la ville se sont déployés de façon assez extraordinaire. Alors, époustouflant, vous avez dit.
J'ai dit époustouflant, c'est vrai. C'est époustouflant ces 8 ou 10 dernières années. De deux points de vue. D'une part, le nombre de choses qui bougent, je vais dire. Alors, c'est aussi bien les voitures, les camions, les piétons. Si on se place en 90, c'est les vélos et quelques mobylettes, les fameuses P50. Et puis, de temps en temps, des motos. Mais maintenant, ce sont toujours les voitures. On a essayé d'y mettre quelques bus, les pauvres. On a continué à laisser approcher du cœur de ville beaucoup de camions. On a essayé d'en évincer les charrettes tirées par des ânes, mais elles ont été remplacées par des tricycles qui, eux, veulent aller vite. Mmh. Les motos se sont multipliées considérablement. Le nombre de voitures a augmenté, mais à mon avis, c'est la conjonction moto-voiture qui fait la difficulté de
vie entre les deux. Mais alors, Frédéric Héran, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ville? Est-ce que la ville, le problème, c'est qu'elle ne s'est pas organisée autour de la voiture au lieu de l'inverse? La voiture n'est plus un simple moyen de déplacement, c'est la ville se fait pour que les voitures puissent y être.
Oui, en fait, on rentre dans toute une série de cercles vicieux qui amplifient le phénomène. Le plus connu, peut-être, est que plus la ville s'étale, c'est le cas de Ouaga qui est en train de s'étaler à toute vitesse, plus la ville s'étale, plus on fait des déplacements lointains. Et plus on fait des déplacements lointains, plus on a besoin de voitures. Et plus on a des voitures, plus la ville s'étale. Voilà un premier cercle vicieux. Il y en a d'autres, par exemple, l'hétérogénéité du trafic que vous avez bien décrite tout à l'heure, c'est ça complique encore les choses. Quand on a tout un ensemble de hétéroclites d'usagers, les gens se gênent beaucoup. S'il n'y avait que des voitures, ou bien que des cyclistes, ou bien que des piétons, ce serait beaucoup plus simple. Et donc cette hétérogénéité complique les choses. Les gens cherchent alors justement des solutions un peu particulières, ce qui rajoute à l'hétérogénéité, etc.
Boris est avec nous au téléphone. Boris nous rejoindra tout à l'heure au téléphone avec nous. Je croyais qu'il était là. Mais c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup, cette difficulté à circuler entre les voitures, les vélos, cette congestion sur laquelle on reste complètement coincé. On est dans sa voiture, on ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, les voisins, les voisines? Vous travaillez, vous écoutez de la musique, la radio. On va revenir 2 secondes, Liliane Pialoui, encore sur les comportements et sur son itinéraire, parce que ça, c'est très important de bien choisir quel axe prendre, à quel moment, comment on fait.
Alors, je voudrais juste continuer un petit peu ce que vient de dire mon partenaire de ce matin sur la gestion de l'hétérogénéité. À Ouagadougou, on a fait l'expérience, c'est concret, hein, un nombre important de pistes réservées aux deux roues, donc parallèles à la voie des voitures. Donc, ces fameuses pistes cyclables. Mais qui sont les cycles? Seulement les vélos et les mobylettes. À partir de quel cylindrée une moto est un cycle, une moto est un véhicule? Donc, où doit-elle se mettre? Quelle est la largeur qu'il faut réserver à ces pistes cyclables? Bon, donc, vous voyez, ces éléments-là sont un certain nombre de critères techniques à étudier, pour lesquels on fait des observations, des mesures. Il faut savoir que la circulation et les déplacements sont sous surveillance permanente par les techniciens. Même dans une ville comme Ouagadougou, qui grandit effectivement, qui s'étale très rapidement. Voilà. Alors, oui, sur les comportements, moi, ce que je dirais, c'est qu'en 90, je ne me posais pas la question de mon itinéraire. Et maintenant, pour aller de chez moi à un endroit donné, j'ai 2 ou 3 itinéraires possibles que j'emprunte selon le moment de la journée.
Et le moment de la semaine aussi,
et
j'imagine.
Et le moment de la semaine aussi.
En fonction. On a retrouvé Boris qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Boris.
Bonjour Clémence.
Bonjour, racontez-nous un petit peu alors. Vous nous parlez des embouteillages insupportables à Douala, comme Hervé tout à l'heure, mais vous nous dites aussi que les routes sont trop étroites.
Oui, comme Hervé tout à l'heure, les routes sont très étroites à Douala, alors c'est très pénible et stressant d'être dans les embouteillages. Je prends un exemple. Pour partir, par exemple, de Akwa pour Bonaderia en traversant le pont sur le Vouri, et en après-midi, c'est très très pénible. Alors on peut mettre près de 2 à 3 heures de temps. Donc la situation, c'est quoi? Qu'il y a trop de petits véhicules dans la ville. Les routes sont étroites et les transports en commun sont très insuffisants. Du coup, les mototaxis ont explosé, leur nombre a littéralement explosé. Et c'est le grand bazar dans la ville, c'est vraiment pénible.
33 1 84 22 71 71, appelez-nous encore les voisins. Alors on le voit, décidément ces motos et ces bicyclettes ont tous les torts manifestement. Ce sont elles qui sont à l'origine des embouteillages, si on écoute un petit peu nos auditeurs ce matin aussi.
Non, c'est évidemment le contraire. J'ai commencé mon intervention en disant la voiture est, par personne transportée, le mode qui consomme et de loin, et de très très loin, le plus d'espace. Et donc si on veut aborder les solutions, une idée reçue qu'on vient d'entendre, désolé pour ce cher voisin qui...
Mais elle est exprimée, c'est ça,
oui,
qui vient,
c'est ça.
C'est le ressenti en tout
oui,
cas.
L'idée reçue la plus courante, c'est qu'il suffirait d'augmenter l'espace, hein, la largeur des rues, ou de créer de nouvelles voies de circulation pour réduire les embouteillages. Tout le monde est persuadé de cela. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Parce que dès lors qu'on augmente cet espace, il sera utilisé par plus de voitures. Et immédiatement ou très rapidement saturé également. Donc la solution, ce n'est pas d'augmenter l'espace de circulation. La solution, c'est de favoriser les modes de déplacement économes en espace, qui prennent moins de place.
Mais ça, c'est une autre difficulté.
Et donc, les deux roues motorisées, ou les deux roues, les vélos, et surtout la marche, voilà la solution. C'est ces modes-là qu'il faudrait favoriser. Et quand on sait qu'en Afrique, en particulier, les trottoirs sont aujourd'hui envahis par les petits commerces, par toutes sortes d'activités, et ne peuvent même plus être utilisés par les piétons, là est un vrai problème. S'il faudrait réussir à redonner de l'espace aux piétons pour favoriser la marche, et ensuite effectivement réussir, c'est facile à dire, à libérer les aménagements cyclables pour les deux roues, oui, c'est vers là qu'il faudrait aller surtout, et non pas en créer de nouveaux espaces de voirie.
Liliane Pierre-Louis, vous souriez.
Je souriais à l'idée des trottoirs, parce que c'est le concept même de trottoir qui est, comment dire, je veux pas être trop tranché, mais qui n'est pas vraiment dans la mentalité locale. Effectivement, je connais un peu Douala, j'y suis allée plusieurs fois, j'ai travaillé au Cameroun. La ville ancienne a été aménagée avec des trottoirs. Les trottoirs servent à beaucoup d'activités et pas seulement au passage. Mais moi, je remarque aussi que dans les lieux, les quartiers beaucoup plus récemment construits, on ne fait pas de trottoirs. Alors pourquoi ne fait-on pas de trottoir? Pas seulement pour une question de moyens, pourquoi ce n'est pas prioritaire dans le dessin d'un projet? Pourquoi? Enfin, on peut trouver beaucoup de raisons, mais je pense qu'on n'a plus le temps parce que...
La petite musique, pourtant, juste pour vous dire, 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro que vous connaissez par cœur les voisins, appelez-nous pour nous parler des embouteillages, des solutions qu'on pourrait trouver pour sortir enfin des bouchons.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, re-bienvenue dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on parle donc des embouteillages. On n'a pas choisi ce sujet pour vous mettre de mauvaise humeur, absolument pas, mais pour discuter ensemble avec nos invités, Liliane Pierre-Louis, urbaniste, et Frédéric Errand, économiste des transports, pour discuter et qui sait, peut-être trouver des solutions. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est votre numéro, les voisins. Appelez-nous et dites-nous un petit peu comment vous faites pour échapper au bouchon. Seriez-vous prêt à oublier la voiture pour monter sur un vélo ou bien enfiler des chaussures ou pas pour marcher un petit peu et retrouver votre travail? Marcher, c'est ce que faisait Hervé Perfide pour se rendre à son travail. Régis Lemoine à Douala, lui, a un petit conseil à donner au pouvoir public africain en général. Faites des routes périphériques pour contourner les villes puisque la moitié des véhicules n'ont rien à faire en centre-ville. C'est la solution, Frédéric Errand?
Alors, c'est une partie de la solution tout de même, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les routes accompagnent la croissance démographique. Ça, c'est tout de même nécessaire. Mais il ne faut pas croire que c'est la seule solution. Encore une fois, la solution majeure, comme je l'ai dit avant, c'est de favoriser les modes qui prennent peu d'espace.
Donc, par mode qui prennent peu d'espace, vous faites allusion au transport public,
D'abord la marche, hein, dans l'ordre, hein, la marche. Les cyclistes et les deux-roues motorisés, et enfin les transports publics et la voiture.
Mais là, il y a un problème peut-être de sécurité pour ce qui est des cyclistes, de la marche avec les voitures. On n'est pas à l'abri de se faire renverser. On pense aux mamans qui sont avec leur bébé sur leur dos et qui sont à vélo. Et hein, Liliane Pierre-Louis, c'est une préoccupation de chaque jour.
Ma grande préoccupation à Ouagadougou, c'est de faire tomber une maman avec son bébé au dos, qu'elle soit à vélo ou qu'elle soit à moto. Donc ça, c'est une grande crainte et j'ai une seule règle, pouvoir s'arrêter. Bon, donc ces questions de sécurité reliées au mode, je pense que l'expérience est très différente entre Paris, la région parisienne, les pays qu'on appelle rapidement du Nord et nos pays du Sud. Ici, on n'a pas l'idée de monter sur une moto sans casque, sans être préparé à monter sur une moto.
Sinon, on se fait verbaliser.
On le sait depuis qu'on est enfant, on sait comment est fait un motard, on joue avec des Playmobil motards. Si vous regardez le nombre de gens qui sont en tenue spécifique pour être sur une moto dans les villes d'Afrique sahélienne que je connais bien et sur d'autres continents dans lesquels il m'arrive d'aller en touriste, c'est un nombre très très restreint. Donc on monte sur une moto en toute tenue, y compris avec un grand pagne qui va s'envoler, avec l'enfant au dos, avec la bassine sur la tête. Ça, c'est une première catégorie de choses ou gens qui se déplacent. Et puis, dans la même catégorie moto, vous allez voir un jeune homme qui fait vrombir son moteur, qui slalome entre tout, qui croit que les autres sont immobiles comme des plots et qui va slalomer le plus vite possible entre tout ce qui bouge tout doucement parce que on n'est pas en situation de bouger plus vite à ce moment-là. Donc, la conjonction des deux, déjà, si on parle du mode moto, on a au minimum ces deux configurations-là. Et elles se déclinent évidemment de beaucoup de façons plus subtiles encore.
Hein. Je reviens au témoignage de Régis Lemoine qui nous a écrit sur Facebook, qui parle de ces routes périphériques. Je vous posais la question pour ce qui est de la solution, parce que ça permettrait de désengorger effectivement le centre-ville. On pense, et pourtant, si je prends l'exemple de Paris qui est entouré par un boulevard périphérique, ça n'empêche pas absolument pas les bouchons de toutes les voitures qui se dirigent vers Paris le matin, on est pare-choc contre pare-choc. Ça permettrait quand même, ou ce n'est pas la solution d'avoir toujours plus d'infrastructures, parce que d'après ce que nous disent nos auditeurs, hein, c'est un problème. Peu de routes, pas assez de routes, peu praticables, ou en tout cas pas des routes qui permettent de ne pas tous se concentrer, toutes concentrer les voitures dans le centre-ville.
Oui, en fait, il faut comprendre que plus on favorise la vitesse, plus on a d'embouteillage. Bon, c'est tout à fait contre-intuitif, hein. La vitesse crée le trafic et les embouteillages. Pourquoi ? Parce que quand on va plus vite, on en profite non pas pour gagner du temps, mais pour aller plus loin. Hein, c'est toujours vrai ça, on en profite toujours pour aller plus loin. Et si on va plus loin, on fait plus de kilomètres. Et si on fait plus de kilomètres, on rajoute du trafic. Et non seulement on rajoute du trafic, mais on incite, on a tendance à utiliser plus la voiture parce que pour aller plus loin, c'est difficile d'utiliser d'autres modes. Maintenant, pour revenir sur le danger des deux roues motorisées, il est hélas absolument vrai que le risque est infiniment plus grand en deux roues motorisées qu'avec tout autre mode de déplacement. C'est absolument impressionnant, les écarts. Là, on a des écarts de 1 à 10, quoi, hein, ou même plus, de 1 à 20 et de 1 à 50, même pour les motos les plus rapides. Donc, les deux roues motorisées, c'est un mode extrêmement dangereux. Maintenant, s'il est utilisé de façon raisonnable, c'est-à-dire à vitesse, à petite vitesse, en faisant très attention, et je sais bien, ce serait quand même mieux avec un casque, même s'il fait chaud, le deux roues motorisé peut être une solution, mais comme un mode.
Mais est-ce qu'on l'emploie comme ça? Parce que aussi, quand on a une moto qui va vite, on l'achète parce qu'elle va vite, parce qu'on va pouvoir justement circuler dans les embouteillages et s'en échapper. Est-ce que c'est pas un peu ça, Liliane Pierre-Louis?
La moto, c'est une belle carte de visite. Hein. Donc, plus on peut montrer qu'on a la capacité d'en acheter une belle, il y a des moments de mode. Hein. Certains modèles, alors je saurais pas les dénommer, mais autour de moi, on sait les dénommer. Donc, bien sûr, mais je pense aussi que, pour revenir à ce qu'a dit notre voisin de Douala tout à l'heure, il a parlé des taxis-motos. Et ce mode est très dangereux, à mon avis. Moi, j'ai pris le taxi-moto à Douala, à Port-au-Prince, dans plusieurs... Bon. Le problème, c'est que le pilote est expérimenté. Il est malin, il est astucieux, il fait ça toute la journée. Mais le passager, lui, il est passif. Il n'est pas habitué. C'est pas un copain pour courir un rallye. Le passager rend encore plus le transport dangereux. Moi, passagère de moto en France, ça m'arrive souvent. Je sais comment me tenir. Je suis équilibrée par le casque que j'ai sur la tête. Passagère de moto, comme j'ai été à Ouagadougou ou à Port-au-Prince, je ne sais plus comment me tenir. Je me sens en danger. J'ai l'impression d'être un poids mort et d'être le poids qui va faire basculer la moto. Mmh. Donc, et effectivement, à Douala, l'hôpital La Quintini comporte un pavillon qui porte le nom des taxis des taxis motos qui transportent les gens.
D'accord. Là, parmi nos voisins, il y a également Thalès de Cotonou qui nous écrit que les bouchons, c'est vraiment une première épreuve pour lui dans la journée. Ça le met très en colère car tous les axes qui relient Cotonou à ses périphéries sont engorgés de 7h30 à 10h. On n'y arrive pas. Il nous faut une heure pour faire 10 km, ce qui semble effectivement très éprouvant. Il y a aussi un phénomène étonnant dont on peut parler, les voisins, les voisines, c'est les feux rouges. Et alors un autre, c'est lié parfois à Liliane Pierre-Louis, vous nous disiez parfois les feux rouges ne fonctionnent pas et du coup... Ça, c'est plus fluide, ça marche mieux.
Alors, je vais vous dire mon diagnostic. Effectivement, au Haga, on vit cette expérience souvent à cause des délestages de courant hein, qui sont communs. Voilà, donc, des feux qu'on connaît bien, des carrefours qui fonctionnent avec feu, à un moment, n'ont plus de feu. Ça ne provoque pas, dans l'immédiat, un engorgement. Mais on se met à penser aux autres, à regarder les autres. À mon avis, ça provoque plutôt de la courtoisie. Alors là, je suis très optimiste en disant de la courtoisie. Mais effectivement, quand on va vers un feu, on ne pense qu'à soi et on ne pense qu'à une chose, pourvu qu'il soit vert. Bon, il est orange. Qui s'arrête à l'orange? Pas tout le monde. Et on est comme aspiré par ce feu. On ne pense qu'à rouler. Quand il n'y a pas de feu, on arrive à un carrefour, on regarde d'abord, on essaye de se donner une stratégie. Je vais passer comment ? Un peu plus à droite, un peu plus à gauche, entre quel véhicule ? Je fais un petit sourire de connivence ou une petite insulte.
On s'intéresse aux autres. Et c'est ce qu'Ibrahim vient nous raconter. Et après, je vous donnerai la parole, Frédéric Errand. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Clémence.
Vous nous appelez de Dakar. Alors, vous nous dites quoi ? Qu'est-ce qui se passe sur les carrefours à Dakar ? Et à Conakry.
Je vais me présenter d'abord. Je suis Ibrahim Sano. Je viens de la Guinée-Conakry, comme vous l'avez précisé. Et je suis venu à Dakar pour information. Mais à Conakry et à Dakar, il y a quand même une certaine différence dans les trucs d'embouteillage.
Oui.
À Dakar, bon, c'est un peu mieux parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup de routes, malgré tout, on peut dire ça. Mais souvent, les carrefours, les grandes autoroutes aboutissent carrément à des petits carrefours et des ruelles. Alors ça, c'est encombrant. Et quand vous voyez les bus, vous montez dans les bus, souvent à Dakar, ce qui vous frappe surtout, c'est que les petits bus, les bus rapides, parfois ils s'arrêtent au bon milieu de la route pour faire descendre ou prendre un passager. Mais n'importe où, pas dans les bus, c'est pas respecté du tout. Bon, j'accuse cela, peut-être que les gens ils n'ont pas dû faire des auto-écoles pour apprendre à mieux conduire.
Ils ne savent pas conduire alors.
Exactement, conduire, c'est pas seulement on prend une voiture et dire accélérateur, frein et tout, mais conduire, il y a toujours quelque chose à l'école. Ça permet aux gens de passer aux autres et pour mieux faire.
Plus de civisme.
Voilà, exactement, il y a ça. Alors, bon, quelqu'un qui sait franchement faire bouger une voiture, on l'accorde, on lui donne une voiture. Et parfois, c'est pénible. C'est très pénible. Et parfois, quand vous allez voir au bout de ces embouteillages, rien n'explique parfois ce type d'embouteillage. Parce que vous ne verrez rien probant qui vous prouve que vous avez fait 1h47 dans l'embouteillage alors que vous avez peut-être un rendez-vous. Ça complique un peu. Et en plus, sur Conakry, bon, à Conakry, là, j'ai une voiture, souvent je conduis. Encore, c'est plus compliqué que Dakar. Hein. Alors, à Conakry, avec même pas beaucoup de bus, c'est plutôt les taximètres. Les fameux taximètres de Conakry, alors là c'est encore pire. Et quand il y a un policier, et ce qui est bizarre à Conakry, c'est quand au moins qu'il y a un policier au bout, c'est là où vous trouvez qu'il y a beaucoup d'embouteillages. C'est très bizarre.
C'est souvent très bizarre, très bizarre. Alors, appelez-nous les voisins 33 1 84 22 71 71. Frédéric Errand. Alors, on parlait des feux rouges là à l'instant. Ibrahim nous parlait des policiers qui fait qu'il y a des bouchons encore. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, je confirme les carrefours à feu comme les policiers qui essayent de gérer la circulation sont là dans une logique pure de gestion du trafic. Et en fait, c'est pas du tout sécuritaire, ça. C'est pas, l'objectif n'est pas de rendre les voiries plus sûres, mais juste, seulement de faire passer un peu plus de voitures. Et en fait, ça déresponsabilise, en fait, les automobilistes et les usagers de la voirie. Quand il y a un feu, on vous dit, passez, ne passez pas, et on estime que les gens vont s'exécuter passivement. Alors que quand il n'y a pas de carrefour à feu, les gens sont obligés de faire attention aux uns aux autres, d'être plus prudents, de rouler plus doucement. Et ça, c'est facteur de sécurité, de vivre ensemble.
Nous allons écouter un petit peu en musique ce que ça donne un embouteillage avec San Severino.
C'est la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de Mars intérieur. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Ils vont les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des gorillons. Ils ont l'air épanouis à casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses autant, 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 où tu n'auras plus d'onglet, où tu te mangeras les dents. Les arles et à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto, bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Sur tout, que sous un casque, on peut pas deviner. C'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule, quand les filles...
Alors, et vous, les voisins, vous vous rongez les ongles dans les embouteillages en attendant que ça passe, peut-être. On parlait à l'instant des feux rouges et de ce phénomène un peu étonnant que quand il y a un feu rouge en panne, la circulation est peut-être plus fluide. Frédéric Héron, il y a un autre phénomène intéressant, c'est aussi quand une route est coupée pour un accident quelconque, elle n'est plus praticable. Et cependant, ça ne fait pas plus de bouchons.
Oui, on appelle ça le trafic évaporé. Enfin, c'est le symétrique.
Ça, c'est un mot magique, les voisins, le trafic évaporé, on en rêve tous, là.
Oui, c'est le symétrique du trafic induit. On va d'abord décrire le trafic induit. Vous savez bien que quand il y a disons, de la capacité quelque part pour se déplacer ou pour stationner, ça crée un appel de trafic. On parle
donc on a les ponts, on a les routes, donc
on parle d'aspirateurs à voiture. Hein, dans le bon, ça existe vraiment ça, hein, le trafic induit par les infrastructures. Eh bien, il y a le contraire, le symétrique opposé, c'est le trafic évaporé. Quand on supprime une infrastructure, parce que par exemple un pont abîmé qui supprime soudain un passage sur une rivière, eh bien on s'aperçoit que, au contraire de ce qu'on pouvait penser, il n'y a pas plus de bouchons, il y en a même plutôt moins. Parce que les gens se mettent à tenir compte de cette impossibilité de se déplacer et repensent leur déplacement. Alors il y a toute une conjonction de phénomènes, il y a un peu moins de déplacements. Les gens se mettent à explorer d'autres modes de déplacement plus économes en espace.
D'autres routes réfléchissent à leur itinéraire.
Ils vont prendre d'autres itinéraires, etc. Il va y avoir toute une série de choses qui font que le trafic va se réduire, au contraire de ce qu'on pourrait croire.
Parce qu'on l'a vu d'ailleurs à Abidjan, il y a un nouveau pont qui a été inauguré il y a un an, qui s'appelle le pont Henri Conan Bédier, et ça n'a pas réduit les difficultés de bouchons, puisque plus on apporte des routes et plus en difficulté tout le monde les utilise. C'est un peu quand on a une grande maison et qu'on est désordonné à la base, c'est pas parce qu'on a plus de place qu'on sera moins désordonné dans sa maison. Il y a Jeanne qui nous appelle de Douala. Bonjour Jeanne.
Oui, bonjour.
Bon, alors vous nous dites...
Bonjour Clémence.
Bonjour.
Oui, je vous appelle en fait pour vous parler du désordre. Donc, je voulais revenir un peu ce que vous disiez sur l'étroitesse des routes. Moi, je pense que c'est pas... En Afrique, c'est principalement un problème de désordre urbain. Pour vous prendre un exemple à Douala. À Douala, en fait, on a un certain nombre de routes qui sont goudronnées, mais malheureusement qui sont cassées, qui contribuent aussi au ralentissement de la circulation. En plus, à Douala, vous avez les routes qui sont pour les motos, les taxis, les piétons, les vendeurs ambulants, les paradoxeuses, les vendeurs de ci et tout ça. Pour exemple, vous pouvez avoir la circulation qui s'arrête en plein embouteillage parce que quelqu'un est en train d'acheter ses arachides chez un vendeur ambulant. Et on est tous là, on attend. Donc je pense qu'en Afrique, la principale raison, c'est que c'est un désordre urbain total. Il n'y a pas de structure et comme vous dites, c'est pas parce que on a une maison plus grande, si on n'est pas ordonné, elle ne sera jamais rangée.
Elle ne sera jamais rangée, exactement. Donc il faut apprendre à être un peu plus civique et à apprendre à se regarder les uns les autres. Liliane Pierre-Louis, vous plaidez pour ça justement. On s'observe, on regarde quel est notre comportement au volant. On va retourner un petit peu à Kinshasa dans le taxi de Sonia Rollet, notre correspondante qui est coincée dans les bouchons avec son chauffeur. C'est un peu la ville qui veut ça. Ce qu'on appelle la République de la Gombe concentre tous les pouvoirs en République démocratique du Congo, un centre-ville dont il est parfois difficile de sortir. Et même d'entrée, il y a trop peu de voies d'accès, même trop étroites. Reportage.
Bibi,
Où est-ce qu'on est?
On vient de sortir la Gombe, au niveau de ma campagne. Ma campagne, c'est une quartier résidentiel.
Il est quelle heure?
5h16, 16 minutes. Quoi.
Et c'est toujours comme ça, à cette heure-ci?
Oui, oui, c'est l'heure de pointe. Parce que vous savez, tout est centralisé à la Gombe. Ville commerciale, centre-ville, et ville administrative aussi, et politique également. Mais les gens habitent à la cité. Il y a des quartiers résidentiels à la cité. C'est pour cela, et les heures de pointe, vers 5h, 5h30, 6h, il y a toujours des bazars comme ça, quoi. Par exemple, moi, j'habite la cité. Pour venir au boulot, je tape toujours des embouteillages, en rentrant également. Les embouteillages, c'est pas l'excès des nombres de véhicules, non, je crois pas. Mais c'est des routes qui sont pas tellement larges. Par exemple, cette route, elle s'appelle route... ça, c'est Ngouma. Et c'est à peu près 9 mètres seulement, de largeur. Et là, je vois... il y a le Premier ministre qui est en train de partir vers chez lui, mais il n'y a pas la route. La route est bloquée à gauche, à droite, là, je vois, et sortie des Comorico.
Et même le Premier ministre est bloqué dans les embouteillages.
Il est là, vous entendez? Mais la route est large, hein. Vous avez vu, vous-même? L'embouteillage formidable. Je n'ai jamais vu.
Vous avez entendu, personne n'est épargné, pas même le Premier ministre. C'est un monde. Vous avez été très nombreux, les voisins, à nous appeler au 33 84 22 71 71 pour nous dire une chose. Le problème des villes, c'est que tout est au même endroit. On a le centre commercial, le pôle d'affaires, c'est tout au centre-ville. Ou alors, à part du centre-ville, mais en tout cas, tout est concentré. Ça, c'est une difficulté, Frédéric Herrand?
Oui, oui. Disons... l'organisation monocentrique, comme on dit, hein, c'est-à-dire un seul centre pour tout,
oui.
De ces villes millionnaires, est un vrai problème. Une partie de la solution, c'est de créer des villes multipolaires, c'est-à-dire de créer des centres secondaires dans les périphéries, de façon à ce que les...
Donc on pourrait avoir, par exemple, si on parlait très concrètement, le centre commercial, le pôle commercial à un endroit, les affaires politiques à un autre endroit. Il faudrait vraiment éclater la ville, en fait.
Non, pas créer des zones spécialisées, non, ça c'est la solution du passé. Non, créer des zones multifonctionnelles, c'est-à-dire où on retrouve tout, à la fois les commerces, les emplois, les écoles, etc., de façon à ce que les gens ne soient pas obligés d'aller au centre-ville ou à l'autre bout de la ville, mais trouve sur place l'essentiel des activités, enfin des services dont ils ont besoin.
Mmh. Liliane Pierre-Louis, vous en pensez quoi?
C'est une question très compliquée. par exemple, à Ouagadougou, on a Ouaga 2000, qui est vraiment à l'écart du centre. Les bâtiments administratifs du cœur de ville ancien sont devenus trop petits. Si je pense au ministère avec lequel je travaille le plus fréquemment, celui de l'urbanisme, de l'habitat et de l'urbanisme, le cabinet du ministre et un certain nombre de services sont en plein cœur de l'ancienne ville, mais l'une des directions les plus importantes quand on est en opérationnel, on va dire, la direction générale de l'urbanisme et des travaux fonciers, la direction générale de l'architecture, sont dans un autre quartier. Donc les trajets pour aller de l'un à l'autre, c'est 2 kilomètres ou à peu près 2 à 3 kilomètres. Ça prenait 5 minutes en 1990. Actuellement, ça peut prendre entre 10 minutes et 45 minutes. Donc la réponse à ça, on va pas casser les rues, on va pas enlever par exemple la voie de chemin de fer qui peut être un obstacle, on va au contraire reprendre le concept que Frédéric énonçait tout à l'heure là de trafic évaporé. Il faudrait à mon avis créer les conditions de l'évaporation, changer les comportements, mettre en tête...
Vous, les maires voisins qui nous écoutez, appelez-nous pour nous dire comment vous allez déconstruire vos villes, c'est intéressant. On arrive bientôt à la fin de l'émission, je voudrais juste qu'on parle très rapidement des transports publics, parce que on a tendance à penser trop de voitures, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Plus de bus, plus de métro peut-être, mais est-ce qu'on en a les moyens de ça? Est-ce que c'est réalisable?
Il est clair que dans toutes ces villes millionnaires du Sud, l'idéal serait quand même d'avoir un métro. Et je sais bien que c'est hors de portée des budgets nationaux, mais c'est là que la solidarité internationale doit jouer. Et il faut aider ces villes du Sud à construire des métros, car c'est ce qui permet à une ville millionnaire de retrouver un trafic décent, disons un niveau d'embouteillage décent.
Et Liliane Pial, oui, alors là on parle en quelques secondes, les solutions, qu'est-ce que vous dites à voisins?
À plus court terme, moi, je verrais une amélioration des transports en commun sous forme de bus et de divers gabarits des bus. Pas strictement un grand bus ou un taxi de 5 places qu'on respecte de mieux en mieux maintenant. D'ailleurs, on met plus 12 personnes dans un taxi de 5 places comme on le faisait autrefois. Bon, mais justement, des bus, des petits bus aussi, enfin une variété de cette offre avec des chauffeurs qui connaissent bien la ville et qui construisent leur itinéraire par expérience. C'est un savoir-faire, c'est une compétence que de savoir circuler dans une ville. Donc, ce que peuvent apporter les pouvoirs publics,
c'est travailler là-dessus.
C'est l'offre, varier
et
l'offre.
Et réfléchir à cette question aussi, et si on essaye de donner un peu plus de place aux hommes, plus qu'aux voitures, ce sera bien, en étant aussi plus civiques, en faisant attention les uns aux autres. 7 milliards de voisins, on va vous retrouver demain. Merci beaucoup Liliane Pierre-Louis, Frédéric Errand, d'avoir été avec nous pour cette émission pas très embouteillée. Merci à toute l'équipe de 7 milliards aujourd'hui, Boris Vichit, Cécile Lavillot. Demain, on va parler d'argent, ou plutôt de votre relation à l'argent. L'argent, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est une obsession, une angoisse? Êtes-vous jaloux de l'argent des autres? 33 1 84 22 71.